Chose de méditer cet après-midi, c'est à partir d'un texte que j'aime bien, un texte de Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, l'encyclique Spe Salvi, sa deuxième encyclique, et où il parle du lien entre l'espérance et la souffrance. Et il m'a semblé que ça pouvait être quelque chose, évidemment, qui a à voir avec notre réalité d'aujourd'hui, de façon à voir que dans cette espérance, dans cette souffrance, c'est la manière particulière de vivre du chrétien. Il y a une espérance. Il y a, alors que tout semble fermé, alors que tout semble sans aucun sens, etc., eh bien, il y a, comme disait le père Christian dans l'homélie, là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui nous permet de voir plus loin. Et ça, c'est typiquement chrétien. Et ça, il faut vraiment... Et ça vient de notre foi. Ça vient pas simplement d'une attitude positive. C'est parce que, la positive attitude, avec Carrefour en positive, c'était leur grande... fut un temps leur grande pub, leur grand slogan, ça m'a toujours fait méditer, ça, des slogans comme ça. Mais ça vient de soi, j'allais dire. On veut voir le positif, etc. Mais le croyant, c'est pas du tout pareil. C'est que ça, la vie de foi, c'est pas qu'il veut voir le positif, c'est qu'il reconnaît le positif. C'est complètement différent. Il reconnaît, parfois avec du temps, et souvent ils font du temps après une épreuve, il reconnaît que dans ce qu'il a vécu, il y a quelque chose de beau, même si ça a été difficile. Donc c'est bien, faut bien faire la différence entre l'attitude psychologique, la méthode Coué. Vous savez la méthode Coué, ce que c'est, hein, vous connaissez la méthode Coué. Alors qu'il fait moins 15 dehors, j'ai chaud, et je finis par transpirer, etc. Il y a qu'on s'auto-persuade. Alors que la vie de foi, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la foi, qui sont incapables parce que c'est un don. C'est vraiment ça, c'est qu'on découvre dans les événements quelque chose de Dieu, une trace de Dieu. Alors je vous propose que on lise et puis je vais méditer un peu, essayer de méditer avec vous là-dessus. Vous pourrez continuer aussi de votre côté la méditation. Notre engagement afin que le monde devienne un peu plus lumineux et un peu plus humain est important. Mais l'engagement quotidien doit être éclairé par la lumière d'une espérance plus grande qui ne peut être détruite ni par des échecs dans les petites choses, ni par l'effondrement dans des affaires de portée historique. Ça, c'est important. La première chose, on est beaucoup dans nos sociétés, dans l'agir, dans le faire. On fait les choses. Et c'est bien, dans le domaine associatif, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine... on veut que notre monde, au fond, on veut améliorer notre monde. On veut que notre monde, comme dit le Saint-Père, soit plus lumineux, soit plus humain. Mais attention, c'est qu'il faut avoir une lumière... On peut aller dans une forme de ce qu'on appelle l'activisme. L'activisme, c'est-à-dire que j'agis pour agir. Et si j'ai pas l'agenda plein, je panique, parce que à quoi je cherche sur cette terre, je me remets complètement en question. Et le Saint-Père dit, attention, il faut, dans l'engagement quotidien, qu'il y ait une lumière supérieure qui vous soit donnée et qui vous donne des raisons d'agir. Pourquoi est-ce que je pose tel acte? Pourquoi est-ce que je me mets dans tel engagement? Pourquoi est-ce que, au niveau du travail, au niveau de l'engagement associatif, au niveau de la famille, je prends telle responsabilité? Il me faut une espérance plus grande, qui ne peut être détruite ni par les échecs dans les petites choses, qui n'a pas connu d'échecs, des choses qui tournent pas rond, des choses qui n'aboutissent pas, des projets qui n'aboutissent pas, vous savez, dès qu'on fait quelque chose, on est tout de suite critiqué, évidemment. Donc, parfois, on se dit, mais on comprend pas les critiques alors qu'on cherche le bien, on se décourage. Donc, ni par ces échecs-là ou ces découragements, dans les plus petites choses, dans les projets, ni par les effondrements dans les affaires de portée historique. Pourquoi? Évidemment, les guerres. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une guerre ou les guerres entre les hommes que je vais cesser d'agir pour le bien? Vous voyez, donc, et le Saint-Père, il dit, l'espérance, l'espérance, ça me donne le courage d'agir. Ça me pousse à l'action. Mais parce qu'il faut d'abord de dire, c'est une espérance, vous voyez, c'est important, parce qu'aujourd'hui, D'une certaine manière, la vie chrétienne et la notion de charité est devenue la solution de solidarité ou d'humanitaire. Mais pourquoi c'était d'abord des chrétiens qui ont été à la source, et souvent des consacrés à la source de toutes les actions sociales, les actions auprès des pays les plus pauvres, etc. Pourquoi? Parce que c'était une espérance qui les mettait en mouvement. Il y avait une espérance. C'était pas simplement une solidarité. Bien sûr qu'il y avait une solidarité, parce qu'ils sentaient qu'ils étaient du même genre humain. Et que tout homme a... Vous savez, les droits de l'homme, c'est ni plus ni moins l'évangile de version laïque. Faut pas non plus... Hein, maintenant, on parle de l'humanité, etc. Mais je veux dire, depuis Jésus, il y a de l'humanitaire. C'est que... on voit très bien dans les actes des apôtres, eh bien, Paul dit, il ne faut pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service de la table, c'est-à-dire le service de la table auprès des personnes les plus démunies. Eh bien, demandons à 7 hommes de pouvoir assurer ce service, et ça a été les premiers diacres. Hein, la diacre, ce qu'on appelle la diaconie de l'Église, le fait d'être diacre, c'est-à-dire d'assurer ce service de charité. Mais c'est important, c'est que, et c'est là où parfois il faut aussi être attentif, c'est ce service, justement pour rendre le monde plus lumineux et plus humain, il doit être mu par la foi. C'est pas, et c'est là où parfois, même je trouve dans nos œuvres d'église, il faut faire attention. Il y a un danger aussi de laïcisation de notre charité, qui n'est plus la charité, qui est simplement une solidarité. C'est pas pareil. Parce que la charité, c'est l'amour de Dieu en acte. Une solidarité, il n'y a pas besoin d'avoir ni foi en Dieu, ni rien du tout. C'est heureusement que la solidarité, elle est quand même... Donner à manger à celui qui a faim, c'est quand même assez naturel. Bon, il peut y avoir toujours des exceptions, mais bon, et quand une personne âgée tombe, ben, tout de suite, plusieurs personnes se précipitent, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour ça. Mais notre manière d'agir, c'est que, justement, on est éclairé par la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est l'amour de Dieu qui nous met en mouvement. La raison, elle est différente. Et ça, il faut le redire parfois dans les œuvres d'Église. Parce que c'est vrai, on sait très bien, on a fait beaucoup de travail au niveau des personnes plus pauvres, des personnes défavorisées, des malades, etc. Mais j'ai le sentiment quand même que parfois, on perd cette dimension de la vie de prière au profit du social, par exemple. On oppose les choses. Ah non, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui agissent. Ben non, c'est les deux. Donc, c'est déjà, c'est rien que cette phrase-là, il y a beaucoup à dire. Hein. Et surtout, c'est ça qui est important. La question, c'est de durer dans l'engagement pour que le monde devienne plus lumineux et plus humain. Qu'est-ce qui nous fait durer? Ben, c'est l'espérance. C'est que l'espérance, c'est attendre autre chose que ce que peut donner la terre. Attendre la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui me met en mouvement. La vie éternelle pour l'autre, la vie éternelle pour moi. Donc c'est intéressant de voir ça, de prendre conscience. Là aussi, il faut pas simplement rester à un niveau, je veux dire, humain, qui est pas si mal. Hein, ça ne dévalorise pas, évidemment, le niveau de tous ceux qui, de façon laïque, soutiennent les uns et les autres. Hein. Mais pour le chrétien, c'est différent de certaine manière. Il donne à son acte une portée que ne donnera pas celui qui n'a pas la foi. Parce que pour lui, il reconnaît dans la personne qu'il aide, en fragilité, en précarité, il reconnaît la personne même de Jésus. Donc c'est un acte de foi, hein, qui le pousse à l'amour, et qui fait aussi, du coup, que l'espérance, elle... Parce que sinon, moi j'ai tellement de vues de gens, si vous voulez, qui commençaient à travailler avec des personnes, par exemple, plus pauvres, marginales. Moi j'ai travaillé pendant des années avec des prisonniers, etc. Bon, c'est des personnes marginales. Et des personnes, des tas de gens qui se décourageaient. Parce qu'évidemment, on s'attend des merci. On s'attend à des merci. On s'attend à un retour. Puis avec les personnes, je pense les personnes marginales, de temps en temps, il y a un retour. Mais il y a beaucoup de retours de bâton. C'est pas un retour dans l'amour. Hein. C'est beaucoup de retours, parfois, en particulier les prisonniers, qui sont évidemment des personnes assez compliquées dans leur tête. Hein, souvent, en Amérique latine, c'était des marginaux, tous des marginaux, des gens violents, etc. Bon. Qui était même violent envers moi, verbalement, pas physiquement, mais très violent parfois, hein, très très dur, très, parce qu'il y avait tout un passé aussi de violence personnelle. Si on n'a pas l'espérance, Donc on se décourage, on dit, bah oui, c'est ça, aider les pauvres, etc. Et beaucoup de gens sont laissés tomber. Parce que le pauvre, bah, évidemment, la personne la plus pauvre, bah, ça râle, ça ne va pas de dérouler le tapis rouge pour remercier parce qu'on a donné un repas. Ah ben c'est jamais bon, c'est jamais assez chaud, c'est jamais machin, c'est ceci, etc. On l'aide, il achète une troisième télé. Bon, du coup, ben, on se dit, mais on va s'en sortir comment ? D'avoir une espérance qui éclaire et qui va plus loin, que dit le Saint-Père, hein, que les échecs dans les petites choses. Ou les effondrements historiques, ben, s'il y a des guerres, ben voilà, laisse tomber, maintenant je ne bouge plus du tout pour personne, je vis dans mon coin. Voilà. Donc, c'est ça, c'est beau l'espérance. Hein. Et ensuite, une autre chose, c'est assez intéressant. Si nous ne pouvons espérer plus que ce qui est effectivement accessible ou espérer des autorités politiques et économiques, notre vie se réduit bien vite à être privée d'espérance. C'est-à-dire, si j'attends des pouvoirs économiques ou politiques de répondre à mes besoins et que mon espérance je la place que là, ben évidemment, ben je vais être déçu. Parce que c'est entre la campagne et faire campagne, et puis une fois élu, on voit les présidentielles, etc., on promet, bon, là, il y avait promet monts et merveilles, et puis ensuite, bon, on voit la réalité. Mais justement, on ne peut être que parfois déçu. Du coup, notre espérance, elle n'est pas seulement, c'est pas seulement un espoir, c'est une espérance en Dieu. C'est Dieu en tant qu'il peut me donner quelque chose. Dieu en tant qu'il... Qui, au fond, ça a à voir avec la vie éternelle. Hein? J'attends de Dieu quelque chose. Hein? Ça ne se résume pas simplement à ce que les pouvoirs, les autorités politiques ou économiques peuvent me donner. Il est important de savoir ceci. Je peux toujours espérer, même si apparemment, pour ma vie ou pour le moment historique que je suis en train de vivre, je n'ai plus rien à espérer. Seule la grande espérance certitude que malgré tous nos échecs, ma vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l'amour qui, grâce à lui, ont un sens et une importance. Alors ça, c'est évidemment capital. C'est absolument capital. C'est-à-dire, même si je ne suis plus capable de voir un chemin, même si tout me semble fermé, même si je pensais que vraiment, que c'était, j'étais sûr d'avoir telle chose, et puis que je ne l'ai pas eu, et puis que bon, je ne vois plus à quoi ça sert, même sur cette terre, etc., ou à quoi sert telle voie que j'ai prise, etc. Hein, même parmi ça, eh bien, malgré ça, je peux garder l'espérance. L'espérance chrétienne, justement, elle s'affirme là. Quand, au plan humain, je ne peux plus rien attendre. Je ne peux attendre que de Dieu. Alors ça demande évidemment, vous voyez tout de suite, une vie de foi. Parce que entendre ça, quelqu'un qui n'a pas la foi, ça ne lui parle pas. Mais bon, là on se situe dans une démarche de retraite pascale, donc de gens hautement évolués dans leur foi, mais leur vie spirituelle, n'est-ce pas ? À nul autre pareil. Et donc du coup, c'est assez intéressant de dire, ben voilà, mais combien nous aussi, on a parfois découragement. C'est découragement parce qu'on voit que les choses n'avancent pas. On voit que dans les relations humaines, par exemple, on voit que il y a des échecs de communication. Hein? Ou alors, ben voilà, ben on l'avait mis, je sais pas quoi, dans un parti politique, ses espérances. Puis, paf, on a été déçus. Ou dans une personne politique, bon voilà, ou dans une personne une personnalité économique, chef d'entreprise, ça. Ça nous demande, je pense aussi, parce que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, hein, on parle beaucoup des difficultés financières, etc. Je trouve, je prie le Seigneur pour que ce soit l'occasion d'un retour à des choses essentielles. C'est pas dans la bourse que je vais mettre mon espérance. Désolé, l'espérance de bonheur. On ne peut pas lui demander plus qu'elle peut donner, et comme c'est pas grand-chose, du coup, voilà. C'est important de dire ça, de se dire, on demande, parce que sinon ça s'appelle l'idolâtrie. Vous savez que l'idolâtrie, c'est mettre à la place de Dieu quelqu'un ou quelque chose. C'est je demande à quelqu'un ou à quelque chose de me donner le bonheur que Dieu seul peut donner. Et de me donner la certitude, de me donner la, l'espérance, de me donner que seul Dieu peut me donner. Alors, je crois que les temps, justement, l'effondrement historique, ben, ça fait partie de ça, de ce qu'on est en train de vivre, d'un effondrement, avec tout ce que ça veut dire de souffrance aussi pour beaucoup de gens, hein, bien sûr, mais pourvu que ce soit le retour au moins à des valeurs de base, comme la famille, par exemple, comme la solidarité, comme la foi. Parce qu'il y en a qui ont placé leur espérance ailleurs. Hein, donc, Et de se dire que même si tout semble obscur, sans un sens, eh bien que ma vie personnelle comme la vie du monde sont dans les mains de Dieu. C'est ça l'espérance. C'est dans les mains de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et le chrétien est témoin de ça. Alors, quoi qu'il arrive, restons humbles, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Quoi qu'il arrive, c'est non. C'est, en tout cas, parfois, c'est vrai que ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas la... Mais celui qui a une attitude de foi, parce qu'au fond, l'espérance s'enracine dans la foi, comme l'amour de Dieu s'enracine dans la foi. Hein, vous savez, même si l'amour est la première des vertus dans le sens où elle restera dans l'éternité, la foi est première en tant qu'elle est la base des autres. Et donc, du coup, maintenant, ça peut être un cheminement. Par exemple, ceux qui ont vécu des camps de concentration, par exemple, ben, c'est, ça n'a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour dire ça. Comment croire ensuite en l'humanité? J'aime bien cette phrase de Elie Wiesel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Elie Wiesel, qui est un juif, évidemment, qui est philosophe, et qui disait, après la Shoah, moi, je ne peux plus croire en Dieu. Mais il disait, je ne peux plus ne plus croire en Dieu. Il disait les deux. Je ne peux plus croire en Dieu après ça, c'est pas possible. Mais je ne peux plus ne plus croire en Dieu. Oui, des trucs comme ça, c'est des effondrements, mais massifs, c'est l'humanité qui va vers le fond. Gardez l'espérance. Parce que c'est pas de l'humanité que j'attends quelque chose. Parce que moi-même, je sais très bien de quoi je suis capable. Et je suis capable de pire, si je n'étais pas un minimum éduqué que j'avais, etc. Ben, l'autre, il a qu'à bien se tenir, il y aurait du sang sur les murs. Hein. Je suis capable du pire, quand même d'en penser. Parfois, on se surprend, il est pensé, oulala, où est-ce que je vais comme ça en penser? Donc, ce n'est pas des hommes que j'attends, ce n'est pas de l'humanité, c'est de Dieu que j'attends. Hein. Bien sûr que ça nous poussera ensuite à attendre des uns des autres, bien sûr, mais c'est pas le cœur, hein, c'est pas le cœur. Alors on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'ensuite on passe des moments de déception, en colère, en révolte intérieure, et puis ensuite en confiance, parce que derrière ça c'est la confiance. Qui dit espérance dit confiance, c'est synonyme pratiquement. C'est synonyme. Donc qui dit espérance dit confiance. Est-ce que malgré tout je m'abandonne dans les mains du Seigneur? Hein, lui qui a choisi de s'abandonner entre les mains des hommes. Hein, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Seule une telle espérance peut, dans ce cas, donner encore le courage d'agir et de poursuivre. C'est la grande espérance appuyée sur les promesses de Dieu qui, dans les bons moments comme dans les mauvais, nous donne courage et oriente notre agir. C'est que le royaume de Dieu se construit quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, le royaume de Dieu se construit. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, hein, que l'on soit éveillé ou que l'on soit endormi, hein, cette graine qui est plantée en terre, Jésus parle de ça, le royaume de Dieu grandit. Ça, c'est profondément chrétien. C'est vraiment, c'est le cœur même de l'évangile, c'est le cœur de notre foi, ça. Et qui va vous rendre compte bien au-delà du positif. De voir le positif. C'est autre chose, voir le positif. Tout le monde peut voir le positif. Mais de mettre en Dieu sa confiance et de savoir... Et pourquoi je mets... Parce que je sais que Jésus a traversé la mort et le péché et a ressuscité. C'est pour ça que je fonde ma confiance. C'est pas simplement parce que, bon, les autres... C'est pas la fatalité. Hein, comme dans d'autres religions, bon, ou la fatalité, non. C'est parce que je fonde ma confiance en la personne de Jésus qui lui-même a traversé tout cet abîme d'absurde pour rejaillir dans la vie. C'est en lui que je mets ma confiance. La souffrance fait aussi partie de l'existence humaine. Il faut certainement faire tout ce qui est possible pour atténuer la souffrance, empêcher dans la mesure où cela est possible, la souffrance des innocents, calmer les douleurs, aider à surmonter les souffrances psychiques. Oui, nous devons tout faire pour surmonter la souffrance, mais l'éliminer complètement du monde n'est pas dans nos possibilités. Simplement parce que nous ne pouvons pas nous extraire de notre finitude, parce qu'aucun de nous n'est en mesure d'éliminer le pouvoir du mal, de la faute, qui, nous le voyons, est continuellement source de souffrance. Ça fait partie, je trouve, ça. D'ailleurs, la question de la souffrance, il y a quelque chose de très important, c'est justement, on dit la vie éternelle, c'est une manière de concevoir la personne humaine. La souffrance fait partie de l'existence humaine. Et le Saint-Père dira, celui qui veut... Et on voit actuellement, il y a une course au confort, il y a une course au plaisir, il y a une course au bien-être, fais-toi plaisir, etc. Bon, tout, on voit très bien. Mais éliminer la souffrance, ce serait éliminer l'homme. La souffrance fait partie de notre humanité. Ça fait partie de l'existence humaine. Parce qu'il y a dans ce monde le pouvoir, comme dit le Saint-Père, du péché et de la mort. Mais ne serait-ce que la mort, c'est une souffrance. Et on sait que tous nous y allons. C'est très bien ça. Sans parler des maladies, etc., des injustices, bon, bref, tout ce qui peut faire la misère humaine. Mais aucun de nous n'est en pouvoir de réduire ça. Aucun de nous n'est en pouvoir d'éliminer complètement le mal et la souffrance. C'est pas dans la... Et il y a eu cette idéologie à la fin du 19e plutôt, mais avec deux guerres mondiales, évidemment, ça a calmé un peu le jeu, de penser que la science allait apporter le bonheur. Voilà le vrai Messie. Voilà le vrai Messie. La science va tout résoudre. Ayez confiance dans la science. Et c'était la 19e avec le rationalisme qui s'opposait justement à la foi en disant « Maintenant, vous êtes dans l'obscurantisme, vous qui êtes croyants, non, non, ayez foi dans la science. » Et cette science messianique, on peut dire, il y a une forme de science messianique hein, qui vraiment allait résoudre tout. Mais c'était aussi l'explosion industrielle au niveau médical, des progrès gigantesques, etc. Et puis patatras, deux guerres mondiales, grâce à la science aussi. Et puis ensuite, bon, c'est retombé. C'est retombé parce qu'on a vu bien à quoi ça pouvait servir, la science. Ah oui, il y en a eu de la science là-dedans. Mais entre la bombe atomique, les expérimentations médicales, etc., ben, c'était fini. On n'a plus personne la prétention de dire que la science va donner le bonheur. Vous voyez, attention de courir derrière des idéologies qui vous disent « Non, vous n'allez plus souffrir ». C'est pas humain. C'est même pas souhaitable. Alors, bien sûr, on fait tout ce qu'on peut pour lutter contre. Bien sûr. Mais c'est même pas souhaitable. Je me rappelle comme ça, j'étais en Amérique latine, au Brésil. Et au Brésil, vous imaginez des gens qui sont quand même en grande partie dans la pauvreté, etc. Il y a une secte, une qui s'appelle l'Église, mais on dit c'est une secte. Hein, l'Église du règne universel l'Église universelle du règne de Dieu. Un truc énorme au Brésil, avec des entreprises, avec, il fallait voir un peu les bâtiments qu'ils construisaient, des milliers de personnes rassemblées là-dedans. Et leur thème, c'était arrêter de souffrir. Vous imaginez, dans un pays comme le Brésil, où on vous dit arrêtez de souffrir, mais vous voyez, ça, c'est pas chrétien. Vous voyez quelque chose où la croix est éliminée, vous pouvez, tout de suite, il faut allumer les warnings, c'est pas chrétien. C'est même pas évangélique, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans nos difficultés, nous avons une lumière. C'est pas qu'il y a plus de difficultés. C'est pas qu'il y a plus de pénibilité. C'est pas qu'il y a plus de souffrance ou de mort. C'est que dans cette circonstance-là, il y a une lumière qui nous est donnée. C'est ça la bonne nouvelle. Vous savez, le fait de croire en un paradis terrestre, ça fait partie des hérésies qui sont toujours là. On voit très bien, par exemple, les témoins de Jéhovah, par exemple, présentent ça beaucoup, le paradis terrestre. Il faut revenir à un paradis terrestre. Toutes les grandes idéologies, communisme, nazisme, ont, au fond, voulu un paradis terrestre. Ont prétendu avoir un nouvel homme, une nouvelle race, où il n'y aura plus de souffrance. Et ça s'est terminé toujours dans un bain de sang. Ça, il faut vraiment être attentif, parce que nous, alors aujourd'hui, l'idéologie, c'est évidemment la consommation, c'est l'argent, c'est le plaisir, c'est le course au bien-être, fais-toi du bien, etc., etc. Pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va rendre heureux. On peut passer son temps et dépenser son argent, des trucs comme ça, c'est pas ça qui va rendre heureux. Vous allez voir ce que nous dit Saint-Père. Dieu seul pourrait le réaliser, c'est-à-dire enlever le mal du monde, enlever la souffrance du monde. Seul un Dieu qui entre personnellement dans l'histoire en se faisant homme et qui y souffre. Nous savons que ce Dieu existe et donc que ce pouvoir qui enlève le péché du monde est déjà présent dans le monde. Par la foi dans l'existence de ce pouvoir, l'espérance de la guérison du monde est apparue dans l'histoire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu lui-même est venu nous rejoindre, et parce que c'est Dieu, eh bien rien ne s'oppose à sa lumière. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas retenue. Les ténèbres n'ont pas pu détenir la lumière. C'est ça cette bonne nouvelle. Ce pouvoir est entré dans le monde, c'est celui qui enlève le péché du monde. Et on ne peut pas enlever le péché du monde sans prendre soi-même ce péché sur soi. L'espérance qui nous donne le courage de nous mettre du côté du bien, même là où cela semble sans espérance. Ça, c'est quand même assez fort. On se met du côté du bien, même si c'est perdu d'avance. C'est quand même fort, ça. Même si on voit que ça ne va pas aboutir. Mais je ne vais pas me mettre du côté du mal, même si c'est mon avantage. Ça demande. Là, il ne s'agit pas de positiver. Là, on est dans la démarche de foi. Et c'est des gens comme ça qui ont accepté de se mettre du côté du bien. Moi, je pense par exemple au Père Kolb. Au Père Kolb, vous connaissez son histoire. Le Père Kolb, qui s'est offert pour, en échange d'un père de famille polonais. Oui, un homme comme ça, alors qu'il savait très bien que c'était sans issue, de toute façon. Mais c'était pas ça, on n'est pas dans une logique de résultat, vous voyez. On est dans une logique de signe. Un père Kolb, il a été un signe. Il savait très bien ce qu'il attendait, c'est pour ça que c'est un saint. C'est pas qu'il ne voyait pas le danger, il le voyait très très bien. Et là où il allait, personne n'en ressortait. Mais c'est de la logique du signe. Il a été un signe. Et c'est un grand dépouillement d'apprendre d'être un signe et pas une solution. Parfois, il n'y a pas de solution. Et on s'évertue à trouver des solutions, etc. Bon, quand bien sûr qu'il faut continuer de travailler sur les maladies, pour les vaccins, bien sûr, des tas de choses comme ça. Bon, améliorer le sort des malades, améliorer le sort... Mais il n'y a pas de solution humaine. Nous-mêmes, comme chrétiens, à travers les... Et on sait très bien que les gestes que l'on pose dans le domaine de la charité, du soutien mutuel, ben c'est des petits... Ça reste... Il y a quand même... C'est des petits gestes, puis il y a un océan de misère. On sait très bien que si on commence à regarder tout ce qu'il y a, toute la misère actuellement, de la misère du monde, que ce soit la faim, la maladie, les injustices, mais il y aurait de quoi vraiment, et qu'on veut soi-même régler le problème, vous voyez, hein. Parfois, on se met à la place de Dieu. On veut être sauveur nous-mêmes. Hein, on voit ça dans les films américains. Ça, il y a toujours un, alors c'est marrant les films américains, il y a toujours un qui donne sa vie, hein, celui qui doit faire, je ne sais pas quoi, il va exploser le météorite qui fonce sur la Terre. Alors il en faut un, mais voilà, je vais être celui-là, donc du coup, voilà, je vais avec la bombe sous le bras, je me jette dans le météorite, les autres partent, bon, la Terre est sauvée. Donc, en même temps, c'est joli, mais bon, c'est parce qu'il y a un messianisme américain aussi derrière ça, mais on ne peut pas, parce que c'est constitutif de la personne humaine. La fragilité, la souffrance. Mais parce qu'il y a une fragilité, mais aussi il y a une ouverture à Dieu, il y a une confiance qui est possible. Vous voyez, quand on n'accepte plus la fragilité, c'est signe aussi qu'on n'accepte plus l'espérance et plus la confiance. Tout est verrouillé. Parce qu'on veut un homme à mon image, à ma ressemblance, donc ça doit penser comme moi je veux, et tout doit être super contrôlé, etc. Et vous allez voir, on va vivre beaucoup mieux. Ça, c'est le principe de toutes les dictatures. Donc, c'est intéressant de voir ça, de dire, ben voilà, même là où il n'y a pas d'espoir au plan humain, ben je m'engage, hein, l'espérance qui nous donne le courage de nous mettre du côté du bien. Nous pouvons chercher à limiter la souffrance, à lutter contre elle, mais nous ne pouvons pas l'éliminer. Justement, là où les hommes, dans une tentative d'éviter toute souffrance, cherchent à se soustraire à tout ce qui pourrait signifier souffrance, ils s'enfoncent dans une existence vide, dans laquelle peut-être il n'existe pratiquement plus de souffrance, mais où il y a d'autant plus l'obscure sensation du manque de sens et de la solitude. Alors ça me paraît vraiment très vrai, très très vrai. Il y a cette course à éviter la souffrance, à éviter la course au confort, vous voyez, la course au bien-être, la course à éviter la pénibilité, tout ce qui est difficile. Dès que c'est difficile, tac, j'esquive. Dès que je vois que c'est dans les relations, par exemple, dans les relations, les relations humaines sont faites aussi, sont marquées par le mal. Une relation, évidemment, parfois une relation, c'est parfois difficile, c'est conflictuel, c'est bon. Dès qu'il y a que ça, paf, j'évite. Je change d'amis toutes les trois matins parce que dès que je vois un défaut, dès que je vois... Bon, vous voyez, c'est cette fuite de la... Parce que je veux absolument pas être dans l'angoisse, je veux absolument pas être dans la souffrance, etc. Et le Saint-Père dit, derrière ça, on aboutit à une existence vide. Ça, c'est très très fort. Moi, je trouve vraiment, vraiment, c'est une existence vide dans laquelle il y a peut-être pratiquement plus de souffrance, mais il n'y a plus de sens. On se retrouve seul. Parce que la communion, quand même, demande, de toute façon, il le dira, la communion demande de s'ouvrir à la souffrance. Demande d'une manière... Il y a quelque chose de pénible dans la communion. Parce qu'on est, on est marqué par le péché, par la mort, on est marqué par l'imperfection, il y a quelque chose de difficile. La vie commune, ça n'a jamais été simple. Alors, parce que la vie commune n'est pas simple, je vais changer toutes les quatre matins de communauté. Pour me retrouver avec les mêmes problèmes ailleurs. Vous voyez, il y a cette tentation du démon qui fait croire que ailleurs c'est mieux. Et nous, en ce moment, c'est beaucoup cette idéologie-là. Avec un autre, c'est mieux. Non, apprenons à vivre dans la difficulté. Bon, ben, c'est difficile, les relations matrimoniales, bien sûr que c'est difficile, ça paraît, j'imagine, c'est pas simple. Apprenons à vivre avec ces difficultés de relations. À porter les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la loi du Christ. On porte des choses. Bon, le travail, évidemment que c'est pas simple, bien sûr que c'est conflictuel, bien sûr qu'il y a de la pression, de la tension. Ben oui, il n'y a qu'au cimetière qu'il n'y a pas de tension, là on est détendu complètement. Mais sinon, il y a de la tension partout, hein, des relations humaines, ben oui. Oui, on ne peut pas vouloir redevenir comme dans un monde où il y a un peu comme le sein maternel, hein, vous voyez, c'est ce que disait Jésus, hein, c'est renaître de l'eau et de l'esprit, et puis faut-il renaître, revenir dans le sein maternel, revenir dans un état de grâce où, de cette manière où, je veux dire, tout baigne, entre guillemets, mais où il n'y a pas de stress, où il y a quand même une protection, même si on sait bien que maintenant la psychologie de la mère rejaillit aussi sur l'enfant, mais bon, c'est un monde quand même hyper privilégié, de protection, de bon. Ben ça, c'est justement, il y a parfois une forme de régression en nous, de vouloir revenir dans une situation où il y a. Ben non, ou alors, c'est ça, cette course, et ça, c'est très, très moderne, ça. Cette course, au fond, l'égoïsme actuel et l'individualisme actuel vient de la peur de souffrir. Du coup, on ne veut plus, non, on ne veut plus s'engager, on ne veut plus le zapping à tous les niveaux. Dès que c'est difficile, on change. Ou une forme de perfectionnisme, vous voyez, qui fait qu'il y a un esclavage. Ah ben, c'est pas parfait, de toute façon, j'accepte pas, c'est pas parfait. Mais non, parce que notre nature humaine est marquée par l'imperfection. Et c'est ça qui rend les relations au fond possibles. C'est une vraie chance. C'est parce qu'il y a une imperfection ben, qu'on a besoin de l'autre. Si à soi-même on s'autosuffisait, ce serait dramatique. C'est l'imperfection, c'est d'une certaine manière la fragilité qui va permettre aussi la rencontre avec l'autre. Ce n'est pas le fait d'esquiver la souffrance, de fuir devant la douleur qui guérit l'homme, mais la capacité d'accepter les tribulations et de mûrir par elles, d'y trouver un sens par l'union au Christ qui a souffert avec un amour infini. Bon, ça, c'est très clair. Hein, c'est pas en esquivant, en cherchant toujours la situation, c'est ça. On est tous plus ou moins comme ça, faut le reconnaître aussi. Hein, mais alors, il ne s'agit pas non plus d'être maso. Le Saint-Père a dit par deux fois, il faut tout faire pour éviter la souffrance, réduire les maladies, etc. Mais quelqu'un qui est en permanence, dès qu'il y a quelque chose de difficile, il s'enferme, il arrive seul. Termine seul. Alors que dans l'espérance, même s'il y a un conflit, même si c'est difficile à vivre la relation humaine, ou des difficultés professionnelles, ou des difficultés de santé, que sais-je, eh bien, l'espérance me permet d'accepter la tribulation et de mûrir par elle. Il y a une forme d'infantilisme dans nos sociétés, justement, basée sur le plaisir. Parce que le principe de plaisir, c'est le principe du nourrisson, au niveau psychologique. C'est le nourrisson qui est mu par le principe de plaisir. Il cherche le sein maternel, parce que ça l'apaise, le principe de... Bon, maintenant, c'est pas le sein maternel, c'est autre chose, c'est tout ce que nous propose la société. Mais c'est pas ça le principe. On grandit en allant, mais ce ne sera pas forcément le principe de plaisir, il n'y aura pas forcément de plaisir. Alors, c'est bon parce que j'ai du plaisir. Mais non, ça peut être complètement mauvais parce que tu as du plaisir. Vous voyez, le seul critère maintenant, alors j'ai eu du plaisir à jouer, qu'on entend les joueurs là, de foot, etc. Ah, j'ai eu du plaisir à faire ça, j'ai eu du plaisir à jouer, etc. Bon. Mais est-ce qu'il a bien joué? Vous voyez, c'est vraiment une idolâtrie. Qui nous renferme les uns sur les autres. Non, mais ça a peut-être été difficile. Ça a été difficile, bah oui, bah ça a été difficile, mais on a vécu quelque chose de fort entre dans l'équipe, je sais pas quoi, de foot, même si, bah oui, les relations sont pas toujours faciles, et voilà, mais c'est pas pour ça que, bon, j'en sais rien, pour un cas concret, mais vous voyez, est-ce qu'on a vraiment du plaisir quand on est mère de famille ou père de famille à éduquer ses enfants? Bah, pas forcément. Est-ce que quand on est religieux, on a du plaisir à prier? Pas forcément non plus. Alors, ben, j'ai pas le plaisir, je vais pas le faire. On va où, là? Mais c'est ça, ce qu'on nous propose, c'est ça. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir, etc. Alors que le plaisir, il y a la dimension du plaisir dans la vie chrrétienne, bien sûr, mais elle vient justement, il y a une vraie. Le plaisir, on appelle ça plutôt joie. Hein, pour le chrétien, il appelle ça, c'est pas le plaisir. C'est la joie chrétienne qui vient du fait de cette joie qui mue par la foi. Comme un père Kolb, ben, terminé dans le bunker de la mort, il n'y a pas de plaisir. Alors, faut pas le faire. Alors, sans parler de Jésus sur la croix. Donc, mais parce qu'il y a un amour qui est là en jeu, eh bien oui, il y a une vraie joie. Même si je sais que ça va entraîner pour moi des souffrances. Mais dans cette souffrance-là, il y aura une fécondité. Je porterai du fruit. Et c'est l'union au Christ, c'est dans la prière, dans l'union à Jésus, qui a souffert avec un amour infini, que je trouve la force de ça. Ce n'est pas ma propre force. La mesure de l'humanité se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. Ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est vrai. Cela vaut pour chacun comme pour la société. Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants et qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée, portée aussi intérieurement, est une société cruelle et inhumaine. On voit bien là, on voit bien dans nos sociétés, c'est sûr qu'on voit, on écarte toujours les prisons loin du centre-ville, je veux dire, les hôpitaux loin, etc. Tout ce qui peut, ou même rappeler, on voit, moi ça me marque très fort, la question de la mort par exemple. La mort est absente de nos sociétés. On annonce, faites attentif à ça, aux informations, le décès de quelqu'un. En général, on ne dit pas le décès, on dit la disparition. Ouais, où est-ce qu'il est passé? On ne sait pas où est-ce qu'il est passé, il a disparu. La première fois que j'ai entendu ça, je me dis, où est-ce qu'il est passé? Mais ensuite, j'ai parlé, c'était la mort, il faut dire la mort. C'est-à-dire, c'est la mort, il ne faut pas avoir peur. Mais pourquoi on a peur de ça? Parce que ça renvoie à nos limites. Qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas Dieu, et qu'il y a peut-être un Dieu. Vous voyez, derrière ça, derrière le langage, en Amérique latine, bon, il y a des lieux pour veiller les morts, et c'est des lieux municipaux. Hein? Un lieu, une maison construite, bon, soit qui dépendent des pompes funèbres, soit c'est un lieu municipal. Et les gens, et on voit la personne, dans son cercueil, sans la. Le couvercle, on le voit, on peut le toucher, etc. On n'a pas peur de la mort. Hein, tout de suite, là, tac, tac. Oui. Et c'est là où une société, c'est à la capacité, au fond, d'avoir une relation avec les gens souffrants. Cependant, la société ne peut accepter les souffrants, si chacun n'est pas lui-même capable de cela. Et d'autre part, chacun ne peut accepter la souffrance de l'autre si lui-même, personnellement, ne réussit pas à trouver un sens à la souffrance, un chemin de purification et de maturation, un chemin d'espérance. Il y a beaucoup de gens, mais on peut comprendre. Mais non, je ne suis pas capable d'aller visiter les malades dans les hôpitaux. Je suis pas capable d'aller auprès de quelqu'un qui, par exemple, qui est trisomique. Il y a des gens qui en sont incapables parce que ça les met dans une telle angoisse. Parce que là, pour le coup, on maîtrise pas grand-chose. Hein. Alors, quant aux maladies psychiques, c'est encore autre chose. Mais or, les chrétiens, les premiers lieux qu'ils ont occupés, ce sont ces lieux-là. Et ça, il faut le dire. C'est les premiers lieux, ça a été, et c'est ça qui a beaucoup marqué. C'est les gens qui étaient rejetés, les gens qui étaient malades, etc. Mais ils avaient la première place. Alors que pour le païen, alors que pour le juif, la maladie est le signe que Dieu ne t'aime pas, qu'il y a eu un péché, ou toi tu as péché, ou ta famille a péché. Ça c'est très fort chez le juif, ça c'est... Et chez le païen, c'est-à-dire le grec, le romain, tous ceux qui ne sont pas juifs, le païen, eh bien c'est quelqu'un d'inutile à la société, donc du coup à éliminer. Donc, et les chrétiens, ils ont apporté un regard nouveau justement sur la personne fragile, sur le souffrant, parce que ça a été mû par l'amour de Jésus en croix, qui fait que ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est pour ça que les congrégations font des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, des lieux d'accueil des personnes marginales, etc., etc., des aumôneries, des visites des prisonniers, parce que justement, il y a ça, c'est le cœur de notre foi. C'est le cœur de notre foi. Laurent, c'était le diacre Laurent qu'on connaît bien, parce qu'il a été ce supplice, c'était le barbecue. Diacre Laurent, donc, et puis il paraît, je ne sais pas, c'est une légende, il disait, vous pouvez retourner, c'est cuit. Mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Bref, toujours est-il que le diacre Laurent, il avait été convoqué par l'empereur, et l'empereur lui a demandé, parce qu'il était aussi, comme diacre, il était chargé des choses matérielles, et donc du trésor de l'église, là. Et l'empereur lui demande, amène-moi le trésor de l'église. Et l'autre s'attendait évidemment à de l'or, à la monnaie, etc. Et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il amène les boiteux, les aveugles, les estropiés, les machins, les clochards, les bons. Et voilà le trésor de l'église. Non, mais ça, c'est un regard d'espérance. C'est pas simplement un regard. Je veux dire, de solidarité. Vous voyez, c'est vraiment un regard d'espérance, parce que je découvre dans la personne du plus pauvre ce que je suis personnellement. Et ça perd ici. Moi-même, je n'ai pas accueilli ma limite, ma finitude, le fait que mon impuissance, quelque part, si moi-même je ne l'ai pas accueilli, je ne vais pas m'approcher de personne, qui est dans cet état encore pire que moi. Et justement, il dit, si, au fond, la société, elle voit qu'elle se juge à cette capacité d'entrer en relation, à prendre soin des gens qui sont dans des situations de précarité, de fragilité, pour X raisons, parce qu'ils sont enfants, parce que ils sont dans des situations de souffrance, etc. Bon, tout le dialogue, par exemple, avec le statut des prisonniers en ce moment, la situation des prisonniers en France, qui est une situation très difficile. C'est pas parce que quelqu'un est prisonnier, moi, on lui prive de sa liberté, moi, on ne le prive pas de sa dignité. Alors l'Observatoire des prisons a retravaillé, a dit que la situation est très grave en France parce qu'il y a un peuplement excessif, etc. Bon, il faut faire quelque chose parce que bon, là c'est au niveau laïque, mais c'est important de dire, on se préoccupe. On ne peut pas laisser ça parce qu'il faut rappeler sans cesse le rôle de l'État, parce que c'est l'État maintenant qui assure ça, pour le bien-être, une certaine humanité, même en étant en prison. On n'est pas privé de son humanité. On ne va pas se dégrader à être à quatre par chambre, à faire n'importe quoi, avec la promiscuité, avec ce que ça implique, pas de dessin. Voilà. Accepter l'autre qui souffre signifie, en effet, assumer en quelque manière sa souffrance, de façon à qu'elle devienne aussi la mienne. C'est ça, c'est... Mais parce que maintenant elle est devenue souffrance partagée dans laquelle il y a présence d'un autre, cette souffrance est pénétrée par la lumière de l'amour. Ben voilà. C'est la compassion. Elle est partagée. Du coup, elle devient lumineuse. C'est la compassion de Marie. Mais on voit bien qu'il y a une opposition entre s'approcher de celui qui souffre et la religion du confort et du plaisir. Ça va pas du tout ensemble. Parce que je ne vais pas rester indemne. Je ne vais pas rester indemne. D'une certaine manière, je vais perdre des plumes, et tant mieux, de m'approcher de celui qui est en situation de souffrance. Oui, oui. Alors, oui, alors voilà, ensuite il faut savoir de quoi on est capable. Chacun, on a des appels particuliers, on n'a pas tous la possibilité d'aller dans les asiles psychiatriques ou d'aller auprès des prisonniers, etc. Il y a un discernement à avoir ensuite, c'est vrai. Puis il y a des relations aussi qui détruisent, c'est-à-dire que, ou des personnes qui sont en grande fragilité, mais vous tirent vers le bas et vous sentez que si vous continuez, vous allez vous enfoncer avec elles. Pourquoi ? Dans la dépression, les choses comme ça. Donc c'est à voir ça. Mais ça veut dire déjà que vous êtes dans une démarche d'aide. Ça veut dire qu'on se pose cette question-là, on a laissé le côté la religion du plaisir, du confort, de se faire du bien à soi-même, du bien-être, etc. On a laissé ça, on est entré dans une autre logique. De la compassion, la compassion évidemment, c'est Marie au pied de la croix, c'est l'espérance. J'ai un regard d'espérance sur la personne qui est là. Et ça devient une souffrance partagée, pénétrée par la lumière de l'amour, dit le Saint-Père. Ça, c'est très beau, c'est vrai. Il y a une lumière parce qu'on est en communion, même dans une situation difficile. Même si tu es en situation difficile, j'accepte d'être avec toi. Je ne vais pas te laisser. Et enfin, le oui à l'amour est aussi source de souffrance. Parce que l'amour exige toujours de sortir de mon moi, où je me laisse émonder, blesser. L'amour ne peut nullement exister sans ce renoncement qui m'est aussi douloureux à moi-même. Autrement, il devient pur égoïsme et de ce fait, il s'annule lui-même comme tel. Ah oui, ça c'est clair comme tout, ça. Le oui, si je veux aimer, c'est que j'accepte de souffrir. C'est que d'une certaine manière, j'accepte d'être déçu par l'autre. J'accepte d'être blessé par l'autre. J'accepte de que l'autre ne réponde pas à mes attentes. Des désagréments, l'autre veut quelque chose et moi je veux autre chose. Bon, ça peut aller de la petite chose, de la petite broutille, mais celui qui se ferme complètement à la souffrance, vous voyez, qui est dans la logique d'éviter tout, mais il termine seul. Parce que aimer, forcément, ça voudra dire que l'autre est différent de moi, et l'autre différent de moi, forcément, il me gêne. Forcément, il me gêne. À un moment donné, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas zéro gêne, c'est pas vrai. Parce que bon, voilà. Déjà dans le couple homme et femme, c'est pas pareil, la même manière de fonctionner, donc la même manière d'envisager les choses. Ensuite, dans le travail, on voit très bien, il y en a qui ont des éducations complètement différentes. Mais c'est là où on voit justement la qualité de l'amour. C'est que je vais me mettre dans cette situation, après discernement, si j'en suis capable, bien sûr, même si c'est difficile. Accepter, je trouve aujourd'hui, accepter un mandat en politique, etc., c'est un acte d'amour. C'est un acte quand c'est vécu vraiment de façon vraie et authentique, comme il y a beaucoup de gens qui le vivent, parce qu'on sait très bien qu'on va être critiqué, on sait très bien qu'on va décevoir, on sait très bien qu'on ne pourra pas répondre à tout, etc., à tous les besoins, parce que qu'est-ce qu'on demande aux politiques d'annuler toutes les souffrances du monde? Non, il ne peut pas. Il y aura toujours des gens. Il l'améliore et il rendra un peu meilleur, mais bon, pas. Vous voyez? Et parfois, la difficulté à trouver des gens qui s'engagent à tous les niveaux, que ce soit au niveau du scoutisme, au niveau associatif, sportif, au niveau politique, j'en parle pas au niveau de l'Église, parce que quoi, il y a peur de quoi? C'est quoi la peur derrière? C'est, j'ai peur de souffrir. Parce que s'engager, c'est l'autre mot pour dire aimer, mais à quel prix? Qu'est-ce que ça me... Quand je vois ceux qui s'engagent, ça me donne pas forcément le... Quand je vois comment ils sont traités, ça me donne pas forcément envie. Du coup, ça demande une réalité supérieure, ça demande une lumière supérieure, qui est l'espérance. On termine. C'est pas la cloche, mais c'est comme si. Je voudrais encore ajouter une petite annotation qui n'est pas du tout insignifiante dans les événements de chaque jour. La pensée de pouvoir offrir les petites peines du quotidien. Ce que veut dire offrir ? C'est insérer dans la grande compassion du Christ ces petites peines. De cette manière aussi, les petits ennuis du quotidien peuvent acquérir un sens et contribuer au bien, à l'amour entre les hommes. Peut-être devrions-nous nous demander vraiment si une telle chose ne pourrait pas redevenir une perspective judicieuse pour nous aussi. Le fait d'offrir. Alors ça, c'était toute une spiritualité plus 19e, on peut dire. Alors on offrait, même on... Bon. Et ça peut dire, est-ce qu'au fond... On peut parler des grands témoins, etc., bon, qui ont fait des grandes choses, mais nous, on se situe dans une démarche plus humble, plus petite dans nos vies. On n'a pas forcément des grandes choses à porter ou des grandes, aller à la rencontre de grandes souffrances. Bon. En revanche, Saint-Père dit, ben, on peut toujours offrir les contretemps, les désagréments des relations, les difficultés de santé. On prend l'habitude de vivre l'espérance. C'est-à-dire, on prend, comme qui dirait, on s'entraîne. Hein, je m'entraîne à la grande espérance. C'est-à-dire, j'associe ces petites difficultés du quotidien, au lieu de râler, au lieu de tempêter, au lieu de critiquer, etc. J'associe ces petits ennuis du quotidien, ces petites peines du quotidien, à la grande compassion du Christ, à l'amour du Christ. Du coup, ça porte du fruit. Ça, c'est fécond. C'est pas stérile. L'important, c'est que notre vie, elle porte du fruit. Ça, c'est capital. Et ça se fera pas sans une participation à la souffrance. Ça, faut pas y croire. Ça se fera pas sans ça. Alors, on aimerait que ça se fasse sans ça, bien sûr. Mais il y aura toujours une partie difficile. Il y aura toujours une pénibilité. Il y aura toujours une difficulté. Il y aura toujours des efforts à faire, il y aura toujours du courage. Bon, c'est ça la grandeur d'âme, c'est même si c'est difficile, j'y vais. C'est ça l'amour. Même si c'est difficile, mais j'y vais. Ou j'y vais ou je reste, selon les cas. Alors on va demander au Seigneur, justement, dans la méditation du chemin de croix, on va demander cette grâce particulière. Hein, d'une espérance et de voir comment Jésus s'avance, hein, on a vers sa passion volontaire. Vous entendrez souvent ce mot-là, la passion volontaire. C'est-à-dire volontairement, il s'avance vers sa passion. C'est pas un suicide, c'est que il a décidé que c'est la volonté du Père pour sauver le monde. Donc il y met sa volonté, c'est-à-dire il y met son amour. C'est ce que ça veut dire. Il l'avance, il la subit pas. Il l'a choisi, il l'a décidé. Il a fui jusqu'à temps que l'heure arrive, mais ensuite, quand l'heure est là, ben, il y va.
Est-ce que vous ne faites pas la différence avec lui ? Parce que dans les temps, on est obligé de bien accepter les choses que vous avez dit maintenant.
Oui. Alors, on est obligé d'accepter. Alors, on choisit. Alors, on peut choisir. On ne choisit pas tout dans notre vie. Il y a des tas de choses qu'on ne choisit pas. Bon. Maintenant, on peut choisir comment les vivre. Il y a toujours un choix, il y a toujours une liberté. Est-ce que j'en fais de l'amour ou est-ce que j'en fais de la révolte ? Est-ce que c'est stérile ou est-ce que ça portera du fruit ? Il y a toujours un choix possible. On est toujours devant une capacité de choisir parce qu'on est profondément libre. À part quoi, quelqu'un qui a une maladie, bien évidemment qu'il ne l'a pas choisi. Quelqu'un qui doit subir le deuil de quelqu'un de proche, évidemment, il n'a pas choisi. Mais qu'est-ce que j'en fais avec ce que j'ai pas choisi ? Là, je peux le choisir. Alors, on va demander ça, vraiment cette espérance, cette vie de foi, de nous approcher du Seigneur, justement, qui a rechoisi, même s'il n'avait pas voulu, éloigne de moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté, les événements, d'une certaine manière, l'ont conduit à la passion, parce qu'il n'a pas... Bon, voilà, l'ont conduit à la passion, mais il est rentré vraiment, il a vu là la volonté du Père, et il a embrassé vraiment cette volonté de Dieu. Et pourquoi ? Par amour. Donc je crois que ça nous aide beaucoup, en tout cas j'aime bien ce petit texte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais petit texte, c'est pas si petit texte que ça, mais...